Mathieu Bernard, bonjour.
Bonjour.
On va partir à la recherche d'un petit animal qu'on espère revoir, mais il ne faut pas trop rêver, bien évidemment. Il s'agit du chat forestier. Alors la question qui me vient tout de suite à l'esprit quand on parle du chat forestier, est-ce que quand il crie, il envoie du bois ?
Il peut envoyer du bois, c'est la tournée des expressions. Mais alors, c'est un chat forestier, effectivement, un chat sauvage aussi, on peut le trouver comme ça écrit. Il est forestier, mais pas que forestier. Il aime bien ce genre d'habitat où on est là, avec de la lisière, des prairies. Et donc là, on a une étude en cours sur cette espèce, sur ce territoire du Livradois Forez.
Découvrir l'Auvergne.
H2O vous emmène en balade.
Nous partons ce matin en direction de la montagne tiernoise, non loin de La Chaux, pour suivre les traces du Felis silvestris, plus communément appelé chat forestier ou chat sauvage. Ce félin est plus robuste et massif que le chat domestique. Il est également plus rare et plus discret. L'observer dans son milieu naturel constitue une quête pour les naturalistes de tout poil. Et puisqu'on parle de poil, sachez que le chat forestier arbore un pelage gris, parfois clair, tendant sur le roux, assez épais et rayé. Même s'il n'est pas menacé de disparition, le chat forestier mérite toute notre attention et justifie le suivi qu'a engagé le parc naturel régional du Livradois-Forez. Mathieu Bernard, du groupe Mammalogique d'Auvergne, fait partie des naturalistes mandatés par le parc pour cartographier les zones de présence sur le territoire du Livradois-Forez. C'est en sa compagnie et avec Jean-Claude Corbel, chargé de mission biodiversité, que nous allons tenter de déterminer la présence du chat sauvage dans le secteur de La Chaux.
Découvrir. Observer,
s'évader, respirer,
contempler. H2O en balade.
Mathieu, on voit des traces là, c'est pas le chat forestier là.
Alors déjà sur la trace, on se fixera pas sur le chat forestier, ça sera une trace de chat. Non, c'est plutôt un petit canidé ou du chien. On est sur un chemin, donc il y a quand même pas mal de promeneurs.
Ah oui.
C'est à ne jamais perdre de vue que la présence humaine est là. Dans les indices qu'on peut observer. Et donc on a des maisons qui sont pas si loin que ça, donc du chat domestique peut aussi être possible. Donc sur les traces ou les crottes, on va pas se prononcer entre chat forestier et chat domestique. C'est trop proche pour être sûr à 100%.
Ouais. Et le chat forestier peut être vu peut-être par des habitants du coin comme étant considéré comme un chat domestique en fin de compte.
Il ressemble pas mal à un chat tigré domestique. Alors après, il y a un certain nombre de critères qui permettent de se prononcer qu'on est plus proche du chat forestier. Une grosse queue en général, annelée avec un manchon noir au bout, une raie sur le dos noire qui s'arrête à la base de la queue. Voilà, il y a plein de petits critères. Le but quand on voit un chat un peu douteux sur le terrain, c'est de choper tous ces critères. Mais c'est vrai qu'il y a des chats tigrés domestiques qui peuvent mettre un petit peu le doute. Dans les formations qu'on a pu faire pour les bénévoles, on rigolait justement à mettre des chats un peu bâtards. Et pour l'anecdote, je me suis fait une frayeur avec mon propre chat sur mon poyage vidéo, moi, qui arrivait d'une manière particulière. C'était un chat tigré et vraiment, j'ai arrêté la vidéo en me disant « Ah, mais non, c'est la pépette qui rentrait manger le soir. » Voilà, c'était marrant puisque le chat forestier sur ma commune est présent aussi et je l'ai eu à quelques centaines de mètres de la maison. Donc ça, c'est un élément important. Il peut être relativement proche des maisons. Il n'est pas forcément au fin fond de la forêt, inaccessible non plus.
Ouais. Ce qui peut effectivement donc du coup induire en erreur certains habitants qui ne sont pas au fait de l'identification du chat forestier. Et le problème, c'est qu'il est tellement près, enfin il peut être potentiellement tellement près des hommes, qu'il subit exactement aussi les mêmes problèmes que peuvent subir les chats domestiques, à savoir le problème lié à la route.
C'est une des causes de mortalité importantes sur cette espèce. Alors cet hiver, c'est assez. On récupère malheureusement pas mal de cadavres de chats forestiers. Alors ça nous intéresse, c'est terrible de dire ça, mais on peut faire de la génétique en fait dessus après, on peut faire pas mal de recherches de biométrie. Il faut savoir qu'une des problématiques qui est difficile à cerner sur le chat forestier, c'est justement son hybridation aussi avec le chat domestique. Ce sont bien deux espèces différentes, mais très proches,
ensemble.
Mais qui peuvent se reproduire. C'est pas très clair, il y a des secteurs où il y a de l'hybridation, donc avec des individus qui ont des critères morphologiques intermédiaires. Et puis il y a des secteurs où ça semble beaucoup moins fréquent malgré la présence du chat domestique. Donc c'est un peu difficile à expliquer pourquoi ça joue parfois dans des tout petits territoires, d'une vallée à une autre, on peut avoir des hybridations plus ou moins marquées. Voilà, ça a pas mal été étudié dans le nord-est de la France. Il faut aussi savoir que le chat forestier, c'était une espèce qui était bien plus présente géographiquement en France qu'elle ne l'est aujourd'hui par le passé, qui a été pourchassée, entre autres pour sa fourrure. Et puis ça reste un prédateur, hein, voilà, donc on va pas refaire tout le discours sur les prédateurs. Et que c'est aussi une espèce qui est en train de regagner ses territoires, à la fois en gros par le nord-est du pays, Et en descendant dans le Massif central, il y a quelques années, on était encore sur le front de colonisation de l'espèce ici, alors que maintenant, elle est présente quasiment partout en Auvergne. Elle reste plus rare dans le département de la Haute-Loire, par exemple. Et puis, on a aussi une population pyrénéenne qui a l'air de pousser au sud-ouest. Et donc, on va avoir, probablement, si ce n'est pas déjà fait, avoir une reconnexion de ces deux populations assez rapidement dans le Massif central.
Alors ici, on est à deux pas de la Chaux, on est dans la montagne tiernoise. Qu'est-ce qui a présidé au choix de ce site pour potentiellement déterminer sa présence ?
Alors on est dans le cadre d'une étude qu'on porte avec le parc Livradois-Forez sur la trame des vieux bois en fait. Et donc cette espèce sert de référence pour étudier cette trame des vieux bois. Et on avait des données éparses. Le but, c'était d'arriver à une donnée plus fine. Et après, il y a un peu de chance. Et puis il faut mettre, on va placer le piège à 2-3 endroits. On va essayer, alors quand on parle de piège, c'est un piège vidéo, hein, soyons clairs. Et on va essayer de trouver alors des coulées, des passages réguliers, tout en étant un peu isolé de l'activité humaine. Et donc, a priori, on espère que ça peut être un point de passage pour le chat.
Le chat et peut-être d'autres, effectivement, parce qu'un piège photo, ça photographie tout. Hein.
Il déclenche systématiquement tout, y compris si Homo sapiens sapiens passe devant.
Ah oui, aussi, oui. C'est moins exotique déjà.
Moins exotique.
Eh bien, on va aller voir ça de plus près, alors.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Petite trace de chevreuil dans la neige.
Ah oui, on voit les deux sabots... Voilà.
De la petite piste.
Ah, effectivement, oui.
Assez ancien, parce que la neige est assez vieille, elle est bien gelée par-dessus, mais ça a regelé. Ça, c'est un petit détail. Les traces dans la neige, alors chevreuil, c'est facile, mais par exemple, sur le chien ou le loup, il faut toujours se méfier de la notion de taille. La neige, ça fond, ça regèle, et donc une trace qui ne serait pas très grosse, d'un seul coup, peut apparaître absolument énorme. On faisait une patoune énorme, et jamais perdre de vue qu'une trace de chien, ça fait des très grosses pattes. Un chien courant ou un berger allemand, vous avez une patte qui est très très grosse.
Ouais, on pourrait être tenté de penser que c'est un loup alors qu'en réalité c'est qu'un chien.
C'est qu'un chien.
D'accord.
Donc quand on fait une piste, il y a effectivement la trace, mais il faut aussi regarder justement toute la piste, l'allure, comment l'animal se déplace, tout ça c'est des indices pour éventuellement identifier. Bon là il n'y a pas de doute, c'est du chevreuil.
Ouais, alors là l'intérêt c'est qu'on voit cette trace là parce qu'on est sorti du chemin. On passe dans des endroits où les promeneurs ne vont pas généralement.
Voilà, ou très peu. Alors après, quand on a les pièges vidéo, c'est surprenant parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est aussi fréquenté. On s'en rend plus compte aussi du dérangement quasi permanent, journalier,
ouais.
Y compris dans des zones très éloignées. C'est juste aussi pour pas charger le piège vidéo, la carte mémoire avec le chien, les chaussures de randonnée et compagnie. Et puis tout bête, malheureusement, pour aussi pas se faire voler le piège vidéo puisque ça arrive régulièrement.
Eh oui, ouais. On imagine qu'effectivement, c'est du matériel qui peut potentiellement intéresser ou être dégradé par des gens qui n'aiment pas trop qu'on vienne étudier la présence animale.
Ou qu'on a filmé en une activité illégale.
Ah oui, aussi, oui, ça peut arriver. Ça
par arrive. Exemple.
Du genre du braconnage, des
exactement.
Choses comme ça.
Exactement. Ouais. Truc sympa, on a la loge du Pic Noir qui est dans la chandelle, là.
Ah oui.
Donc on vient d'entendre passer et
qui
a tapé dans la loge.
Alors la chandelle, il faut expliquer, hein, c'est un tronc d'arbre qui monte vers le haut, telle une bougie de chandelle.
Et qui est cassée. C'est des arbres en général étêtés. Certains trouvent pas ça joli, mais c'est un grand intérêt écologique. Ce sont des arbres qui finissent par mourir ou qui peuvent servir de loge pour pas mal d'espèces, des insectes ou des oiseaux. Il y a des griffes derrière.
Ah oui, ça va bien. Derrière. Oui, ce petit... Alors c'est quoi, c'est un cri territorial, ça?
C'est un cri ou un cri de groupe, parce que c'est un peu particulier cette période de l'année. Là, elle commence à chanter, mais en même temps, il y a encore des oiseaux migrateurs qui vont remonter après au nord. Mm-hmm. On est quand même que fin janvier. Mais oui, les gens ont peut-être remarqué, on commence à voir, même s'il fait très froid le matin, le merle, les grives, la grive musicienne, la grive draine qui commencent à chanter. Là, c'est du cri, hein, par contre, c'est pas le chant.
C'est là, le chien.
Le chien.
Voilà. Le chien ailé, c'est bien connu, qui vient se poser au sommet des chandelles.
C'est tout à fait typique de l'Auvergne. C'est-à-dire que c'est un élément qu'il ne faut jamais perdre de vue. On a l'impression d'être dans une belle forêt, mais les maisons à vol d'oiseaux, pour le coup, elles sont vraiment pas loin.
Ah, ce sont des espaces habités,
exactement.
Hein, c'est sûr. Et c'est là qu'on se rend compte aussi du côté anthropique, finalement, du son. C'est quand on se rend compte que le son humain ou le son des activités humaines est quasi omniprésent dans la nature. Vous qui êtes en plus dans la nature constamment, vous devez vous rendre compte de ça.
Et aujourd'hui, c'est calme.
Et aujourd'hui, c'est calme.
Quand je suis venu poser le piège, c'était délirant. Il y avait un bruit de dingue tout autour. Voilà, et il y avait vraiment une activité très très marquée. Donc là, il y a une habitation qui est à 500 mètres, mais voilà, le chien, le chien qui aboie, on l'entend très 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 loin. La nuit est très marquante pour ça. Ouais. On entend des bruits en version XXL.
Et on a entendu en arrivant, là sur la montée du chemin, aussi le Pic Noir.
Ouais. Et donc, il y a une autre espèce indicatrice des vieux bois, Un peu comme le chat forestier, il est indicateur d'une certaine maturité de boisement. Et c'est surtout un oiseau qui est très intéressant, c'est un bâtisseur. C'est-à-dire que ces loges-là, il va les creuser, il va parfois en faire plusieurs, hein, il va en utiliser qu'une seule pour sa reproduction, mais par contre, derrière, ça va être réutilisé par d'autres oiseaux, par des chauves-souris, par des mammifères comme la martre ou l'écureuil. Voilà, donc c'est tout un système qui se fait. Il y a certaines espèces comme ça qui sont bâtisseurs. Le blaireau, par exemple, sur les mammifères terrestres, est aussi un bâtisseur. Le terrier de blaireau peut être utilisé par le renard, le lapin de Garenne, y compris quand le blaireau est encore dedans.
C'est assez délirant. C'est l'auberge espagnole.
Exactement. Et le chat forestier a été trouvé dans des terriers de blaireau, en gîte temporaire. Ça lui arrive ponctuellement.
Tac, 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 tac.
Plutôt les pêches, ça a l'air d'être...
Oui, c'est un petit tac, tac, tac.
C'est pas très puissant.
Trop gros, tac, tac, tac. Ce serait le pique-noir, on entendrait un peu plus.
Puisqu'on parle de son, notre chat forestier, on le connaît mal au niveau son.
Je m'apprêtais à poser la question, justement.
Il est à peu près silencieux. Alors, il miaule, hein, voilà, ouais. comme un chat domestique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de références son sur cette espèce-là. Il faut savoir qu'il y a un autre félin sauvage en Europe qui n'est plus présent en Auvergne. C'est le lynx, qui, lui, a un feulement très portant. Mm-hmm. Mais c'est vrai que... on a assez peu de... Enfin, en tout cas, contacter au niveau sonore directement sur le terrain le chat forestier, ça paraît improbable. Même si moi, j'en ai déjà vu un me grogner dessus, comme un chat domestique. Ouais. Et après, parfois, sur les pièces vidéo, on peut l'entendre, surtout en période de rut.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Mathieu, ici dans ce secteur de la Chaux, vous travaillez donc autour du chat forestier et vous travaillez pour le parc Livre de la Forez, qui vous a mandaté pour faire une étude, une enquête, pour établir la présence du chat forestier sur le territoire.
C'est ça, la première étape de ce travail, c'est vraiment sa présence-absence dans ces petits carrés de 5 par 5 km dont on a parlé tout à l'heure. En fait, on avait déjà des données sur un certain nombre de zones. Et l'idée, c'est vraiment de voir s'il y a une continuité d'utilisation. Et au sein de cette continuité, de voir l'importance des zones de forêt ancienne, de vieilles forêts, et de les trames, ce qu'on appelle la trame verte et la trame bleue. Alors, la trame verte pour des boisements, des haies, etc., qui permettent à l'espèce de circuler. L'idée, c'est aussi de vraiment étudier la dynamique de l'espèce, non pas juste sa présence-absence, mais comment elle peut se déplacer sur ce territoire.
Et on peut parler aussi de trames de vieux bois, parce que c'est quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui. Jean-Claude Corbel, c'est un sujet que vous suivez de près pour le parc naturel du Livre de la Forez. Qu'est-ce qui a présidé au choix du chat forestier pour établir une enquête là sur quelques années là?
Alors c'est assez simple, tout simplement. Le chat forestier, en fait, est une espèce qui est reconnue au niveau national, en fait, pour l'étude des trames vertes, des trames forestières et de la qualité des corridors écologiques forestiers. Donc c'est un peu pour ça qu'on a fait ce choix-là. C'est une espèce qui peut faire des déplacements qui peuvent être assez importants et qui va utiliser donc ces corridors forestiers. Et avec la présence du chat, on peut arriver en fait à donner une idée de la qualité de ces corridors. Donc on a choisi cette espèce pour ça.
Et alors, ce chat forestier, il faut bien le préciser, n'a jamais été un chat domestique. C'est bel et bien un chat sauvage. Hein.
Alors tout à fait, c'est une espèce avec le lynx qui était le seul représentant des félidés en France et en Europe, avant l'arrivée du chat domestique en fait. Hein. Et donc cette espèce, elle est présente potentiellement depuis plusieurs milliers d'années sur le territoire, comme les forêts actuelles d'altitude, hein, qui sont présentes depuis environ 4000 ou un peu plus de 4000 ans. Donc on peut imaginer qu'il a été présent depuis très très longtemps.
Ici donc, on est sur une parcelle forestière qui peut parfaitement plaire au chat forestier. C'est de la forêt diversifiée. On a quoi? On a du hêtre, du chêne?
On a du hêtre, du chêne. On a du pin sylvestre qui est le colonisateur. On a du sapin qui est à cette altitude tout à fait normal. Et puis, malgré tout, on a aussi un peu d'épicéa parce qu'on est dans un secteur où il y a de la plantation récente. Donc, on est dans une zone diversifiée qui est très intéressante pour lui. Ouais.
Mathieu, vous travaillez donc avec des pièges. On rassure tout de suite nos auditrices et auditeurs, ce ne sont pas des pièges létaux. Ça n'est pas là pour tuer l'animal, bien au contraire. C'est juste pour piéger son image. On va aller vers un piège.
Oui.
On va voir ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait, il faut lire une carte mémoire. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça. Il est où votre piège? Parce qu'il est bien planqué, je ne le vois pas, moi, d'ici.
Il est dans notre dos à 10 mètres à peu près.
Ah oui, d'accord.
L'objectif, c'est effectivement qu'il ne soit pas trop visible, à la fois pour l'homme, mais aussi pour les animaux. Il faut qu'il rentre, en fait, dans le territoire. Et alors, c'est assez marrant, parce que souvent, les animaux viennent le sentir quand on l'installe, parce que notre passage est gentil. Il y a parfois un petit creux, et puis au bout d'un moment, ils reprennent un peu leur vie habituelle dans le terrain.
Certains peuvent être amenés même à venir
j'ai des trucs de fous, des fois, qui viennent gratter les pièges de très très proches, ou les martres qui descendent sur les pièges par l'arbre au-dessus. Voilà. Donc après, on a plein de configurations un peu diverses et variées. Là, c'est fixé sur un arbre. Temporairement, on peut le planquer dans un chaos rocheux, on peut le fixer sur un poteau plus ferme si on veut, en terrain où on est protégé. Enfin voilà, c'est un système qui est quand même assez génial, parce qu'on va choper des tranches de vie animalières en nature sans dérangement, ou presque quoi. Le seul dérangement, c'est de venir le mettre et de le récupérer.
Dis donc, c'est un peu trivial ma question, mais aujourd'hui, pour faire l'amour dans la nature, il faut choisir le coin où il n'y a pas de piège.
C'est exactement ça. Mais pour l'anecdote, puisqu'on est dans les trivialités, il y a une des méthodes qui consiste à faire son petit besoin naturel devant le piège. Quand on vient le placer, alors il faut faire gaffe à bien déclencher après avoir fait le petit piège. Non, mais le simple fait d'uriner devant le piège crée en fait une odeur nouvelle dans le territoire. Et pas mal d'espèces animalières viennent marquer en fait sur ce territoire, sur ce marquage de l'homme, quand on a déclenché le piège. Ça marche un temps, hein, voilà. Mais sur le chat forestier, par exemple, on sait aussi qu'il réagit bien à la valériane. Donc parfois, on peut mettre une petite phéromone de valériane pour essayer de voir si ça l'attire un peu. Ça marche plus ou moins, hein, voilà, suivant les secteurs et peut-être suivant les individus, il y en a qui ont l'air d'être plus sensibles à la chose, quoi.
Découvrir l'Auvergne.
H2O, partez en balade.
Mathieu, vous pouvez nous décrire l'environnement dans lequel on est là?
En fait, je me suis placé, Jean-Claude disait, il y a un petit chaos rocheux. Donc souvent, c'est un marquage assez fort dans un territoire pour toutes les espèces animalières. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un peu contraignant le jour du placement, mais l'idée, c'était de se placer sur une sorte de remontée. En fait, derrière, dans mon dos, ça circule sur une sorte de demi-pente. Il y avait pas mal de traces la fois où je suis venu. Il y en a moins là dans la neige aujourd'hui. Pas de traces de chats, mais d'autres espèces animalières. Les routes qui nous sont invisibles pour nous dans la nature sont utilisées par pas mal d'espèces. Hein, une piste de chevreuil peut très bien servir au blaireau, au renard, au chat forestier. Et beaucoup d'espèces sauvages aussi, parfois, vont la facilité. Le chemin tracé par l'homme est très facilement utilisé par la faune sauvage. Voilà, donc là, on l'a placé ici. On aurait pu le placer un peu plus bas. Il y a parfois des choix qu'on est obligé de faire à l'instant T. Mais il n'a pas bougé, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'il y a toujours une petite hantise quand on arrive sur une zone. On espère ne pas se faire piquer. Ça nous est malheureusement déjà arrivé, quoi.
Alors, vous avez essayé de camoufler un peu le boîtier, avec quelques branches de sapin.
Oui, on a un boîtier, un caisson de protection qui évite effectivement les dégradations. Et un piège vidéo, c'est assez simple. On a en fait des capteurs qui vont capter le mouvement et qui vont déclencher avec une lentille de vidéo ou de photo. On peut régler vidéo-photo. Là, on est sur de la photo, sur ce protocole-là. Pour une simple raison, c'est que la photo, elle va figer vraiment l'animal et on peut éventuellement, si on a pas mal de chance, avoir des détails du pelage qui nous permettent d'identifier les individus, puisque le chat forestier, comme le lynx, a un pelage individuel. C'est leur carte d'identité et dans leur pelage.
Elle n'a pas deux identiques.
Non.
Ah oui.
Non, jamais. D'accord. Et donc c'est assez particulier. Alors c'est plus compliqué sur le chat forestier que sur le lynx, mais sur le lynx, par exemple, ça marche très très bien, puisque les taches, après, il faut avoir une bonne photo dans le bon angle, etc.
Ouais.
Donc on va pas forcément rechercher aussi toujours que l'animal soit très proche du piège. Des fois, ça peut être au contraire d'avoir un passage, même s'il est un peu loin, mais où on l'est bien sur le côté, avec tous les critères visibles, etc.
D'accord.
Mais il y a parfois, ça marche, et d'autres fois, ça marche pas du tout. Hein. C'est un peu de hasard.
Je vous laisse ouvrir la bête.
Allez, on va. Les branches, c'est un peu plus simple.
Donc il était attaché autour du tronc d'un arbre mort ou vivant, non?
Oui, vivant. Un petit chêne qui est vivant.
Un petit chêne, voilà.
Avec
à un bon mètre 40 ou 50 de hauteur.
Ouais, je l'avais placé haut ce coup-ci.
Ouais.
Des fois, moi, je place assez bas. Mais l'idée, c'était d'avoir un peu plus l'environnement global que vraiment la piste en question. Et puis avec ce qu'on appelle un cap piton de protection, voilà, qui tient le caisson. J'arrive pas à ouvrir, donc il a peut-être gelé un peu. Hop.
Pour éviter de vous faire voler le boîtier.
Le boîtier, exactement.
Parce que ça, c'est quand même du matériel qui coûte, hein, ce genre de...
Alors ça se démocratise, vraiment.
Ah oui.
Jean-Claude le disait tout à l'heure, c'est une méthode qui est relativement récente, ça s'est beaucoup démocratisé, et les prix, forcément, ont commencé à baisser. Mais quoi qu'il en soit, c'est plus aussi le côté où bah, on s'est démené pour venir placer le piège, etc. Et bah, c'est jamais cool de se faire piquer du matériel. Donc si jamais vous voyez un piège vidéo...
Voilà, ne l'enlevez pas.
Ne le détériorez pas non plus. Il y a une étude, voilà, c'est souvent une étude scientifique qui est en cours. Voilà, il n'y a pas de souci.
Évitez d'uriner devant, parce que forcément, tout le monde va le voir.
Voilà. En tout cas, nous, quand on va récupérer le piège.
Il y a des myrtilles, là, Jean-Claude, autour de nous. Là.
C'est aussi un indicateur de forêt ancienne. Alors, on est proche d'une zone de forêt ancienne à 200 mètres d'ici. Hein. Et c'était des zones anciennement pâturées ici, où il y avait déjà de la présence, en fait, de la myrtille. Donc, c'est tout à fait normal qu'on la retrouve aujourd'hui aussi. Hein.
Ouais.
Mais c'est quand même intéressant de retrouver cette plante dans un milieu forestier. Ça fait partie de la diversification des espèces dans une forêt. À cette altitude, c'est normal de trouver de la myrtille.
Ouais, c'est signe de bonne santé en quelque sorte. Alors Mathieu, vous avez le boîtier en main, vous allez l'ouvrir. C'est un peu Noël à chaque fois.
Ouais.
Qu'est-ce que vous ressentez d'ailleurs quand vous ouvrez
C'est bizarre. Ouais, il y a un peu du mystère parce qu'en fait, on lève quelque chose de. Même si on connaît une zone, par exemple, on découvre complètement des choses qui se passent. Moi, j'adore le mettre dans mon jardin.
Mm-hmm.
De temps en temps, quand j'ai pas d'études, je le mets dans le jardin et c'est assez délirant parce qu'on se rend compte de seul coup qu'il y a une vie la nuit quand nous on dort. Absolument dingue. Et oui, c'est un peu Noël. On a de l'espoir. On espère avoir bah là, pour le coup, capté le chat forestier. Mais pourquoi pas. D'autres espèces un peu surprises. Hein.
Découvrir l'Auvergne.
H2O, partez en balade.
Nous sommes à deux pas de la Chaux, dans la montagne tiernoise, en compagnie du naturaliste Mathieu Bernard, du groupe Mammalogique d'Auvergne, et de Jean-Claude Corbel, chargé de mission biodiversité pour le parc naturel régional du Livradois-Forez. En leur compagnie, nous nous intéressons au recensement du chat forestier, félin sauvage particulièrement discret qu'il est très rare de croiser dans son milieu naturel. Pour établir une cartographie de sa présence, Mathieu Bernard utilise des pièges photos et vidéos qui se déclenchent dès qu'un animal passe devant le détecteur du boîtier. Et bien entendu, il n'y a pas toujours de chat sauvage, mais d'autres acteurs divers et variés.
Moi, j'ai eu de l'écureuil qui transportait ses jeunes, la martre qui passe dans un sens et puis qui, 10 minutes après, repasse dans l'autre sens avec le merle dans la gueule. Bon, ben, il y en a un qui avait fini sa vie et des jeunes qui allaient être nourris. Voilà, tout ça, c'est des scènes de vie qui peuvent s'enchaîner assez vite. Puis parfois, il y a la déception, parce que ça arrive. Ça n'a pas déclenché, ou alors ça a déclenché beaucoup parce qu'il a neigé. La neige peut déclencher. On fait attention, effectivement, à aussi ne pas avoir de branches, par exemple, qui bougent trop devant. Mais parfois, ben, effectivement, on n'a pas ce qu'on espérait.
Ah oui, parce qu'un coup de vent et la branche qui passe devant le détecteur de présence, et là, ça matche à chaque fois.
On s'est tous fait avoir.
D'accord.
Ou parfois, on va détester le chevreuil, par exemple. Aussi. On a mal capté qu'en fait, le troupeau de chevreuil dormait pendant des heures devant le piège vidéo.
Il m'est arrivé d'avoir chat forestier et chevreuil sur la même vidéo. À partir du moment où il n'y a pas de relation prédateur-proie, on peut les trouver parfois à quelques mètres de distance. Et c'est un des enseignements des pièges vidéo, parce que c'est des choses qu'on n'aperçoit pas forcément aussi facilement que ça à l'observation, sauf si on fait de l'affût ou si on veut faire de la photo.
Donc en clair, deux espèces animales qui ne représentent pas un danger potentiel pour l'une ou pour l'autre peuvent se retrouver dans les mêmes milieux et circuler en même temps.
Oui, complètement. Ça se voit pas mal sur les fenaisons. Hein. le chat forestier avec le renard sur des fenaisons au printemps qui viennent exploiter la manne d'un seul coup disponible. Forcément, s'il y a 10 aides, c'est un petit peu différent, effectivement. Mais c'est vrai que ce système des pièges vidéo a permis d'obtenir des informations, même comportementales ou de biologie, qu'on n'aurait pas eu autrement. Et c'est mondial, hein, parce que là, on parle de nos espèces européennes, mais il faut bien imaginer qu'en forêt équatoriale, ça a révolutionné la vision, l'étude d'espèces comme le jaguar, par exemple. Voir un jaguar en forêt équatoriale, c'est un petit peu compliqué en Amérique du Sud. Piège vidéo, il vous donne beaucoup plus d'infos. Et c'est vraiment une technologie qui nous apporte beaucoup, beaucoup de documentation nouvelle. Ou parfois, et ça c'est drôle, des choses qui ont peut-être été un peu oubliées sur la biologie des espèces. Il y a aussi des espèces, on parlait tout à l'heure que le chat forestier recolonisait ces territoires, donc on redécouvre aussi parfois une capacité d'adaptation à une ressource alimentaire disponible localement, à une condition particulière, une tolérance à une autre espèce ou la proximité avec l'homme dont on parlait tout à l'heure.
Donc là, vous avez récupéré la carte de l'appareil ?
Pas encore.
Pas encore.
Je change mon petit mot de passe.
Allez-y. Louloute 23.
Non.
Non, pas du tout.
Je me gourre en plus.
Il n'est pas le bon mot de passe. Donc l'appareil, on ne l'a pas dit, hein, mais c'est un appareil qui est quand même un peu camouflé aussi au niveau du boîtier, qui reprend les couleurs un petit peu militaires, hein, n'ayons pas peur des mots. C'est un peu ça, c'est du vert, du noir, du marron.
Oui, on évite de mettre un piège vidéo en rose fluo.
En fluo, voilà. Ça, j'imagine, oui.
L'idée, c'est que ça passe le plus inaperçu possible, effectivement, en nature.
Ouais. Vous-même, Jean-Claude, vous utilisez souvent ces pièges pour le parc ?
Oui, on a des secteurs, par exemple, où on fait du suivi permanent depuis plus de 10 ans sur cette espèce, notamment chat forestier. L'année dernière, sur la vallée du Fossat, qui est un ENS, espace naturel sensible, où on a un suivi permanent pour le chat forestier, 2021, donc c'était une bonne année. J'ai plus de 20 données d'observation au piège vidéo, au moins des mâles et des femelles, sur ce secteur.
Nous sommes dans un secteur forestier au cœur de la montagne tiernoise, en compagnie du naturaliste Mathieu Bernard du groupe Mammalogique d'Auvergne et de Jean-Claude Corbel, chargé de mission biodiversité pour le parc Livre de Forez. En leur compagnie, nous tentons de découvrir les traces de présence d'un félin très discret, à savoir le chat forestier. Mathieu Bernard a extrait la carte mémoire d'un piège photo et sur l'écran de son PC portable, nous voyons défiler les photos prises pendant 3 semaines.
Donc un renard, un chevreuil pour l'instant.
Toujours le chevreuil.
Toujours le chevreuil qui est au milieu.
Alors, c'est pas trop surprenant qu'on voit le chevreuil, puisqu'on avait vu ça.
On a vu ses traces.
Il est encore là, en fait.
Il va probablement nous remplir pas mal la carte mémoire, le chevreuil.
D'autant qu'il faut expliquer qu'on est monté un tout petit peu plus haut que l'endroit où vous aviez choisi de poser le piège et qu'on a découvert en plus une couche.
Une couche de chevreuil, oui.
Ah, écureuil.
Ah oui, petit écureuil. Sur la neige.
Dites donc, Jean-Claude, vous avez l'œil, hein, parce que moi, j'avais rien vu. Hein.
L'écureuil qui repasse. Un coup dans l'autre sens, voilà.
Et parfois, avec un peu de chance, le félin montre enfin le bout de son museau.
Alors ça, c'est certainement un jeune individu, en fait, hein, vu la morphologie.
Ah oui.
Donc là, on voit bien le critère de la queue annelée. Hein. La queue annelée avec ce manchon noir. Et les anneaux sont fermés, complètement fermés. Les chats domestiques tigrés, en général, les anneaux sont pas fermés.
C'est pas long, mais...
Qu'est-ce qu'il nous dit, là ?
C'est moi le plus beau. Ouais.
C'est du rut.
C'est clairement du rut. Hein. Là, pour le coup, on a un son qu'on n'entend pas régulièrement.
Celui-là, c'est une des vidéos de qualité, quoi.
En fait, quand vous avez eu la chance de le voir dans une prairie, souvent il y a peu de doute. Il a une tête de félin, quoi. J'aime pas ce terme, mais il y a une sauvaginité dans le regard d'un chat forestier que vous ne retrouvez jamais chez un chat domestique. C'est plus le petit minou, quoi. Voilà. Il y a un aspect, même s'il n'est pas très gros, voilà, il y a un aspect, une manière de se déplacer qui est très très particulière, très féline.
Et l'attitude et le comportement.
Ouais, c'est ça. C'est souvent il se tapisse, la manière de se tapisser dans la prairie quand il a la chasse. C'est vrai que là, beaucoup d'observations de visu, les animaux viennent pas très proches, hein, quand même. Ils ont une tendance à se mettre à distance. Hein. C'est un animal qui est relativement craintif, quand même. Et c'est vrai que oui, il y a cet aspect un peu, voilà, c'est un félin, et puis bah, c'est un félin sauvage chez nous, en Europe, quoi.
Ça reste une espèce sauvage, une espèce hyper discrète qu'on a, enfin, je sais pas si j'en vois, sans rechercher à l'observer, à faire d'affût, etc. Moi, je le vois en vrai une à deux fois par an maximum. Quand c'est une fois, c'est déjà bien parce que c'est de l'observation opportuniste, en fait. Donc dès qu'on voit une espèce comme ça, bah, on est quand même content parce que c'est des espèces où il y a très peu de données, en fait.
Donc c'est pas qu'un animal d'altitude. Les vieilles forêts, le vieux bois, on va le trouver en plaine, en montagne, en rien de montagne. L'espèce va aussi s'adapter au boisement ancien dont il dispose.
Quel est son régime alimentaire ?
À 80-90%, c'est des rongeurs. Beaucoup de rongeurs forestiers, le campagnol roussâtre, entre autres, qui va fluctuer suivant la ressource alimentaire. Donc quand il y a beaucoup de graines en forêt, ben, il y a beaucoup de rongeurs, donc le chat forestier a de la ressource. Il peut aussi attraper quelques oiseaux. De la griffe, du merle, mais on l'a vu attraper du grand cormoran dans des colonies en ripisylve, par exemple, un peu motivé. Voilà, mais c'est un carnivore exclusif, hein, par contre. Donc il mange vraiment de l'alimentation carnée, même si, comme tous les chats, il peut aussi manger un petit peu de végétaux, notion de purge qui peut être présente. Mais voilà, 90% sur du rongeur, à peu près 80-90% suivant les secteurs.
Les portées, ça se passe comment ? C'est dans les terriers ?
C'est assez variable, les zones de mise bas. Donc oui, il y a eu dans des terriers de blaireaux, comme on l'a déjà évoqué. Ça peut être une souche, un chaos rocheux, une chandelle, comme on l'a vu tout à l'heure, cassée, où la femelle va se mettre dedans. On l'a trouvé aussi dans des tas de bois, sur des maisons forestières, par exemple, et parfois même dans des cabanes abandonnées. Donc l'espèce cherche juste en fait une forme de tranquillité et fait preuve d'opportunité là aussi.
Alors là, j'imagine que voir toute une petite famille, maman et les petits, ça doit être costaud là.
Ouais, bah ça, pour le coup, moi, j'ai jamais eu aussi en visu ni sur piège vidéo. On a des fois des jeunes, pas mal, au moment de la dispersion. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai vu des jeunes chats forestiers très petits en soins, sauvés par pense-bêtes. Mais c'est vrai que oui, trouver une portée, ça serait.
On a des collègues du parc des volcans.
Des volcans qui en ont eu, ouais.
Qui l'ont eu au piège vidéo. En fait.
Ils ont même eu la femelle pleine. Et quelques semaines après, sur le même piège vidéo, la femelle passe avec les deux jeunes, quoi. Donc là, ouais, c'est des données assez géniales, quoi.
Avant de partir, on va aller poser un autre piège.
Ouais, on va en remettre un peu plus bas, et puis on va croiser les doigts pour qu'il passe ce coup-ci.
Ah bah c'est parti.
L'étude menée sur le territoire du Livradois Forez va permettre de connaître les zones de répartition du chat forestier. Un travail qui va prendre encore du temps, car l'animal est franchement très craintif et discret. Merci à Mathieu Bernard du groupe Mammalogique d'Auvergne et Jean-Claude Corbel, chargé de mission biodiversité pour le parc Livradois Forez, de nous avoir guidés sur les traces du chat forestier. Merci à Caroline Jean-Gérard pour la prise de son et à Isabelle Tissot pour le mixage. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes dans la belle Auvergne. Bon week-end à toutes et à tous, à l'écoute des programmes de France Bleu.
Continuez la balade avec H2O sur francebleu.fr.